Cos, une émission proposée par Michel Niaille.
Chers amis, bonjour. Nous continuons sur le problème du vêtement et de la laïcité. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avions vu le problème général du vêtement comme une des données ou une des dimensions culturelles de notre société, de nos sociétés depuis le début de l'humanité ou pratiquement, parce que même si certaines populations, je pense africaines ou amérindiennes, n'ont pour tout vêtement qu'une cordelette autour de la taille, c'est un vêtement. Et sans cette cordelette, ils ont le sentiment d'être nus. Donc l'idée de nudité ou de vêtement est très variable, mais toute l'humanité ajoute au corps quelque chose, fût-ce une bandelette ou un ruban, qui montre qu'on se distingue ainsi des animaux. Alors je voudrais aujourd'hui parler de cette question du vêtement en relation directe avec les religions. Évidemment, toutes les religions, pratiquement, se sont intéressées aux vêtements pour différentes raisons et ont imposé un certain nombre de règles, plus ou moins sévères, plus ou moins inégalitaires. Souvent, ces règles sont plus lourdes pour les femmes que pour les hommes, plus ou moins changeantes. Certaines prescriptions de vêtements encore valables il y a 30 ou 40 ans ne le sont plus aujourd'hui. Bref, il ne faut pas croire qu'il y a une sorte de permanence, de pérennité absolue des modes vestimentaires en matière religieuse. Mais c'est clair que, comme je l'avais dit la dernière fois, la nudité, en tout cas dans les religions du livre, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, islam, est le signe à la fois du péché, de la barbarie, du caractère naturel, donc animal de l'homme, et que se couvrir, s'habiller, et d'une certaine manière, c'est déjà accéder à l'humanité. Alors, bien sûr, les différentes religions, je vais me restreindre, disons, aux religions du livre, donc le judaïsme, le christianisme ou les christianismes et l'islam. Évidemment que ces religions du livre ont eu des positions différenciées sur le vêtement, mais continuent aujourd'hui, encore de nos jours, à pratiquer une certaine sélection de ce qui peut être vu ou qui ne peut pas être vu dans la société du point de vue du vêtement. Parce qu'au fond, le vêtement, il a peut-être un aspect individuel, je cache ce que je ne peux pas montrer, mais il a surtout un aspect social, je cache pour les autres ou je fais en sorte que les autres ne me montrent pas ce qu'il est interdit de montrer. Alors justement, qu'est-ce qu'il est possible de montrer ou de ne pas montrer ? Pour les Israélites, vous le savez, une des sanctions, j'allais dire, dans la différenciation des sexes, d'abord c'est la séparation, y compris dans les lieux de culte, entre les femmes et les hommes, et c'est le fait qu'un certain nombre de vêtements sont obligatoires pour la prière, bien évidemment, mais aussi dans la vie quotidienne. Alors, pour la prière, on porte sur les épaules un châle que l'on met d'ailleurs sur la tête au moment de certaines prières et qui nous rappelle qu'il y a une espèce d'obligation de se couvrir devant la divinité et de se cacher d'une certaine manière, de se protéger. Et c'est le rôle pour les hommes de la kippa, c'est-à-dire d'observer par cette petite pièce de tissu en forme de calotte sur le haut de la tête, leur respect de la divinité. Pour les femmes, ça va plus loin, c'est en général, ou ça a été longtemps, un long voile ou disons un grand foulard, mais pour les plus religieuses qui ont peur que dépassent des cheveux, c'est l'adoption de la perruque qui permet de cacher les cheveux qui sont, vous le savez, toujours dans nos sociétés associés à l'idée de péché et de sexe. Ce n'est pas un hasard si dans l'Ancien Testament, l'affaire entre Goliath et la femme qu'il aime se traduit par le fait qu'elle profite de son sommeil pour lui couper les cheveux, lui raser la tête, et donc il perd toute sa force. C'est une tradition qui s'est maintenue d'ailleurs même dans le christianisme, où le fait de couper les cheveux est un signe dans la perte d'une partie de soi-même, de la soumission à Dieu. C'est la raison pour laquelle les moines ont le crâne rasé encore de nos jours, Dans le catholicisme, bien évidemment, là, les restrictions sont très anciennes, on s'y est habitué, mais sont de la même nature. Je viens de parler des moines et des prêtres dont une partie de la tête ou la totalité est tonsurée, donc il faut, par l'ablation des cheveux, rappeler la soumission à Dieu, mais en plus, les prêtres et les moines vont porter un costume qui les distingue. Alors, pendant longtemps, il faut savoir que pour les moines, les ordres mendiants, c'était tout simplement un sac qu'on enfilait par la tête et on mettait autour de la taille une corde. C'était pas plus compliqué que cela. Et c'était le signe de la pauvreté ultime, puisqu'ils n'avaient rien dessous et rien par-dessus, et que donc ils étaient dans un état, de dénuement complet vestimentaire. Et c'est à ce costume que l'on reconnaissait les moines mendiants. Alors chaque ordre monastique a adopté une couleur particulière, le brun, le blanc, le marron, plus ou moins teinté, le bleu marine, mais peu importe, les différents ordres monastiques se sont distingués par la couleur de leur robe, mais portaient pour les hommes cette obligation de se cacher derrière ce costume impersonnel finalement. C'est la même chose pour les femmes, où l'on voit que les femmes qui appartiennent à un ordre monastique revêtent un costume qui datait la plupart du temps dans son type général du Moyen-Âge, mais qui a été quelquefois relooké, si j'ose dire, avec la création d'ordres plus récents, au XVIIe, au XVIe, au XVIIe siècle. Je pense à ce qu'on appelait les bonnes sœurs avec la cornette, c'est-à-dire les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Vincent de Paul avait organisé un ordre monastique, mais comme il voulait contourner les règles de la papauté, on ne sait pas que les sœurs de Saint-Vincent de Paul renouvelaient chaque année leurs vœux, de telle sorte qu'elles pouvaient partir lorsque l'année était écoulée, ou deux ou trois, si elles le voulaient. Et elles portaient un costume qui était le costume des femmes un peu bourgeoises du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moins deux robes l'une sur l'autre, et un grand tablier, un grand col blanc empesé, et puis surtout cette espèce de grande coiffe qui était amidonnée et qui avait des sortes d'ailes et qui étaient les restes des costumes du Moyen-Âge. Elles l'ont porté jusqu'à Vatican II, mais depuis Vatican II, le costume ecclésiastique s'est modifié et les bonnes sœurs elles-mêmes ont dessiné leur nouveau costume dans les mêmes couleurs, ce bleu un peu marine et noir, et elles ont abandonné la grande cornette au bénéfice d'un voile sur la tête. Donc on voit comment pour les religieux et les religieuses dans l'Église catholique, les contraintes vestimentaires existaient et ça a été une des raisons des conflits éventuellement dès la fin du XVIIIe siècle, mais encore plus au moment de la loi de 1905, de savoir s'il fallait réglementer le port de ce costume, en ville, dans la vie sociale. Alors, évidemment, pendant des siècles, on n'y a pas pensé du tout, mais l'esprit voltairien en France au XVIIIe siècle fait qu'on l'oublie. À la fin du XVIIIe siècle, une constitution un peu oubliée, qui est la constitution du directoire, prévoit dans un de ses articles que les religieux ne pourront pas porter le costume ecclésiastique en dehors des célébrations, c'est-à-dire pas dans l'espace public. Donc, c'est le seul moment où on a interdit le port des signes religieux, notamment de la soutane des prêtres ou des costumes des bonnes sœurs, dans l'espace public, au nom de la liberté de religion et de la liberté de pensée. Ça a été évidemment oublié après la fin du directoire. Bonaparte a laissé évidemment reprendre les habitudes qui ont continué. Et la question s'est reposée en 1905 de savoir s'il fallait interdire le port de la soutane. Et ça a été un débat assez vif entre l'extrême gauche et la gauche. Et l'extrême gauche était représentée par un certain monsieur Allard, qui dépose un amendement au moment de la discussion de la loi, disant que le costume ecclésiastique ne peut être porté qu'à l'occasion des cérémonies, donc pas dans l'espace public. Et déjà d'ailleurs, des maires très à gauche, de l'extrême gauche, on dirait aujourd'hui, radical socialiste, avaient, par arrêté municipal, interdit le port de la soutane pour les prêtres. Ça a donné lieu à une joute oratoire entre Allard et le promoteur de la Loire, ici de Briand, qui a été au fond le responsable au Parlement, et qui dit à M. Allard, mais vous savez, ce n'est pas un oubli de notre part, parce qu'Allard a dit, je pense qu'on a oublié dans les textes de mettre cette interdiction. Il dit, non, ce n'est pas du tout un oubli, c'est volontaire. Et il ajoute, vous comprenez bien que si jamais on interdit la soutane, l'Église catholique convoquera des tailleurs qui, avec ingéniosité, vont fabriquer un nouveau costume qui ne sera pas tout à fait une soutane, mais dont tout le monde verra que c'est une soutane revue et relookée, et donc nous aurons l'air complètement ridicule parce que nous ne pourrons pas lutter contre un nouveau vêtement, ou alors ça va être une cascade d'interdictions qui vont se répéter. Et il ajoute cette expression qui, à mon avis, est extraordinaire, il dit, mais jusqu'à maintenant, la soutane était un costume religieux, aujourd'hui et pour l'avenir, elle sera un costume parmi d'autres. Autrement dit, on va banaliser ce costume. Pour ceux qui croient, eh ben, c'est un costume religieux, pour nous, c'est un costume comme notre. Et c'est ce qui fait qu'on a évité la guerre des soutanes, si j'ose dire, ou des costumes des bonnes sœurs dans l'espace public. On voit d'ailleurs qu'à partir de Vatican II, les prêtres ont commencé largement à adopter ce qu'on appelle le costume de clergyman. Ça ne s'invente pas parce que les clergymen, ce sont quand même des pasteurs protestants en Angleterre ou en Amérique, mais ils ont adopté ce qu'on appelle le costume de n'importe quel homme dans notre société, mais au lieu d'une chemise, on a ce qu'on appelle le col romain, qui est un col dur, raide, et un plastron de couleur noire ou grise. Et donc, on voit bien que le costume s'est simplifié et qu'on a perdu l'habitude de voir à la fois les bonnes sœurs dans leurs cornettes et les curés avec leurs longues soutanes. On voit cependant maintenant, avec une mouvance, disons, ultra-traditionnaliste catholique, réapparaître pas simplement les costumes des moines, qu'on avait un peu perdu de vue parce qu'ils avaient adopté le costume de tout le monde. Ils ne mettaient la robe blanche, par exemple, pour les dominicains que pour les messes. Mais on voit réapparaître des costumes de prêtres avec la soutane, la grande ceinture frangée, quelquefois même le chapeau plat qu'on avait oublié. Et donc là, il y a une espèce de retour, soi-disant, à la tradition, qui a fait une tradition qui ne date qu'un ou deux siècles. Donc, on voit bien que le costume ecclésiastique pour les catholiques est important, mais il y a aussi des obligations pour les fidèles. Alors, pour les hommes, il n'y a pas beaucoup d'obligations, sauf d'être vêtu correctement pour aller à la messe et de ne pas mettre de chapeau sur la tête, donc de se découvrir, lorsque on assiste à la messe. Pour les femmes, c'est l'inverse, il faut qu'elles aient la tête couverte en signe de soumission. Donc, longtemps, on a porté des chapeaux, quelquefois dans les traditions plutôt hispanique, on portait une mantille qui est l'objet de beaucoup d'apprêts, hein, parce qu'il y a des mantilles très belles et très chères, mais disons que c'est maintenu cette idée que les femmes devraient assister à la messe la tête couverte. C'est beaucoup moins respecté aujourd'hui. Si vous allez dans n'importe quelle messe, vous apercevez que, sauf peut-être des personnes âgées ou des personnes très religieuses, beaucoup de femmes vont en cheveux, comme disait ma grand-mère, à la messe. Pour les protestants, il n'y a pas véritablement de contraintes vestimentaires. Les pasteurs sont des hommes ou des femmes comme les autres, donc ils n'ont pas de costume particulier. Et même quand ils célèbrent le culte, ils ne portent pas de vêtements cléricaux. Il faut bien comprendre que la robe pastorale est une robe universitaire qui prouve simplement qu'ils ont fait des études. Et d'ailleurs, c'est la même robe que celle que moi je porte comme professeur d'université. Ce n'est pas un costume ecclésiastique. Même les professeurs des facultés de médecine qui portent une robe noire avec des parements violets obéissent simplement à la vieille organisation des robes universitaires de Napoléon Ier, le violet, couleur de la réserve, couleur de la pénitence, étant réservé aux théologiens, le rouge aux juristes, l'amarante aux scientifiques, le jaune aux littéraires, etc. Et donc, on voit bien que chez les protestants, en tout cas dans ce qu'on appelle faussement le clergé, il n'y a pas de costume spécifique, a fortiori pour les hommes et les femmes qui participent aux cérémonies. La seule chose, c'est qu'il y a une habitude depuis le XVIe siècle, et là Calvin a été très, très, très important, de ne pas avoir de costume ostentatoire. Il ne faut pas, par le luxe, par des broderies, par un effet de clinquant, en imposer aux autres. Et donc, c'est imposé des couleurs plus sombres, plus discrètes. Et par exemple, Calvin a fait la guerre au rouge, à la couleur rouge, qui était très somptuaire. Et il a jeté son dévolu sur le bleu, le noir et le bleu. Ce qui fait qu'en effet, le bleu marine, le gris et le noir sont l'essentiel des costumes des protestants. Mais ce n'est pas une obligation théologique, évidemment, ni même ecclésiastique, c'est le signe d'une certaine réserve, d'une certaine modestie dans le vêtement. Et on sait très bien que chez les protestants, des atours un peu trop attifés, des bijoux un peu trop voyants sont plutôt considérés comme de très mauvais goût dans les habitudes de nos concitoyens. Donc, il n'y a pas chez les protestants d'interdit ou d'obligation en matière de vêtements. Même pour les grandes cérémonies, je pense par parallèle entre la première communion catholique et la confirmation des protestants, on voit qu'il y a une énorme différence, même si jusqu'à ma génération, les jeunes filles qui avaient à peu près 16 ans, hein, comme c'était à l'époque pour la dernière année du catéchisme, pour la première communion, comme l'appelait les catholiques, et la confirmation pour nous, portait quand même la grande robe blanche avec le grand voile. Et les garçons, moi, c'était la première fois que je portais un costume avec une cravate. Mais la robe blanche, c'est complètement perdu. Déjà, dans ma génération, je me souviens, on était une quinzaine à être confirmés. Il y avait, mettons, la moitié de filles à peu près. Et sur les 7 à 8 filles, il y en avait 2 qui portaient la grande robe blanche. Donc, c'était dans les années 50, déjà, ça partait, si vous voulez. Alors qu'à la génération précédente de ma mère, toutes les jeunes filles qui faisaient leur confirmation portaient une grande robe blanche avec, évidemment, le grand voile, comme des jeunes mariées, et une grosse croix huguenote pour rappeler chez qui on était. Donc, chez les protestants, pas d'obligation particulière. Chez les musulmans, enfin, évidemment, des obligations qui sont plus liées à la propreté du corps. Un homme, par exemple, comme une femme qui va prier, doit se laver, et c'est très précis dans les obligations coraniques, mais surtout liées au hadith. Il faut se laver la tête jusqu'au cou, les mains jusqu'au coude, les pieds presque jusqu'aux genoux. Donc, ce qui vous explique que les ablutions étant nécessaires avant la prière, vous avez dans l'entrée des mosquées une cour avec des robinets ou de l'eau qui coule. On voit ça très bien dans les belles anciennes mosquées espagnoles qui sont non pas pour les agréments et pour faire joli, mais parce qu'on est obligé de se laver, de purifier le corps avant d'aller prier. Et les hommes portaient évidemment dans ces pays-là des sortes de grandes robes longues qui faisaient partie du costume traditionnel, ainsi que les chiours, les chirs, donc les sages, et puis celui qui dirige la prière. Mais il n'a pas de costume ecclésiastique particulier, sauf dans certaines régions, par exemple en Égypte, où vous avez un costume particulier avec un turban particulier, une sorte de chéchia rouge entouré d'un grand turban blanc, ou au Liban, où les musulmans portent un costume spécifique quand ils dirigent une mosquée. Mais ça n'a pas les mêmes contraintes que le costume catholique. En tout cas, pour le tout venant, on va prier à la mosquée dans l'habit où on est. La seule obligation, c'est de s'être lavé pour s'être purifié. En revanche, pour les femmes, eh bien, c'est pas particulier à la religion musulmane. C'est que dans la tradition de ces sociétés-là, les femmes avaient la tête couverte. C'est comme ça depuis des siècles. Et donc, soit un voile, soit un foulard, foulard, un turban, bref, quelque chose qui cache les cheveux, toujours pareil, la soumission des femmes à l'égard de l'ordre divin par rapport aux hommes. Aujourd'hui, on fait une fixation sur le voile qui n'est pas plus important que ne l'est le voile pour les femmes dans l'Église catholique. Le Coran ne cite qu'une fois cette pseudo-obligation, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une partie de la sourate 24, qui est la sourate de la lumière dans le Coran, où le prophète dit de la part de Dieu « Commande aux femmes de ne découvrir de leurs ornements, ce qui est une évidence, de ne découvrir de leurs ornements que ce qui est nécessaire et ce qui est évident, de couvrir leur sein de leur voile et de ne faire voir que les ornements qu'a donné le Seigneur, qu'a donné Dieu. » Autrement dit, la seule obligation, c'est de cacher les seins, c'est de cacher la poitrine, qui est un objet sexuel évident. Hein. Mais l'idée qu'il s'agit d'un voile qui couvre la tête a été inventée par la suite, et alors d'un voile qui recouvre l'ensemble de la personne est encore une invention qui n'est pas dans le Coran. En réalité, ces grands voiles, comme le hijab ou le tchador, sont des costumes très antérieurs à l'islam, donc antérieure au 7e siècle, qui était portée notamment en Afghanistan ou dans ces régions du Turkestan, qui était un voile qui cachait les femmes, mais qui n'avait rien à voir avec l'islam, puisque l'islam n'existait pas, et qui s'est perpétué. Mais de là aujourd'hui à dire « voilà le vrai costume de l'islam », c'est une erreur considérable. Et cette espèce de course à plus traditionnaliste que moi, tu meurs, est une folie. Et donc, vouloir absolument dire « le Coran oblige les femmes à cacher les cheveux », c'est faux. Et donc, ce que le Coran demande, c'est que les femmes couvrent au moins leur poitrine. Et ça, c'était à l'adresse, n'oubliez pas qu'on est en Arabie, hein, donc il y fait chaud hein, là-bas, c'était à l'adresse des femmes assez dénudées, qui la plupart du temps pouvaient être des prostituées et qui montraient leur charme pour pouvoir les vendre. Et donc, ce que dit le prophète, c'est « vous ne pouvez pas habiller de cette manière-là, aller faire la prière, au moins que les femmes pudiques cachent leurs atours naturels, c'est-à-dire les seins. » Mais il n'est pas question ni du foulard sur la tête, ni d'une sorte de cache complète de la personne humaine. C'est très important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, nous voyons que les trois religions abrahamiques, les trois religions judaïques, chrétiennes, islamiques, ont en commun d'avoir des prescriptions à l'égard du vêtement, plus ou moins sévères, les plus sévères aujourd'hui, pour des raisons que j'expliquerai, apparaissant comme étant les musulmans, un peu moins sévères les catholiques et encore moins sévères les protestants. Alors, continuons en montrant qu'en réalité, bien des prescriptions en matière de vêtements, soi-disant imputées à la religion, relèvent en réalité de traditions de la société civile que l'on a cru liées ou soumises à des autorités religieuses. Alors, il en reste quelquefois quelque chose. Je vais prendre un exemple d'abord dans les pays du Maghreb. Ayant été pendant plusieurs années professeur à l'université Alger, j'ai pu observer les différences de costumes qui se portaient dans ce pays. Il y a au moins trois costumes différents pour les femmes. Pour les hommes, ce n'est pas tout à fait particulier, sauf une exception que je donnerai à la fin, mais qui concerne les populations tout à fait du Sud et du Sahara et qui ne concerne que les hommes. Mais pour les femmes, vous avez au moins trois costumes. Vous avez le costume qui était valable dans pratiquement toute l'Algérie colonisée, c'est-à-dire les trois grands départements, hein, Oran, Alger et Constantine, qui consistait en une sorte de grand voile blanc, le haïk, qui couvre la tête et tout le reste du corps et qu'on tient avec les mains sur la poitrine d'une certaine manière, mais de temps en temps, il se soulève et puis on voit bien que les femmes jouent un petit peu avec ce côté un peu affriolant d'un voile dont on attend qu'il s'envole un petit peu au vent. Et puis, une sorte de petite de masque, de petite voilette qu'on attache derrière la tête et qui cache la bouche. Donc, qui cache un objet sexuel majeur, qui est donc la bouche. Donc, le grand voile cache les formes et la petite voilette cache la bouche. C'est le costume que portaient toutes les femmes du peuple qu'on croisait dans Alger. Pas les femmes de la bourgeoisie qui, depuis longtemps, avaient abandonné le costume traditionnel. Mais moi, je me souviens, ma femme ménage, qui avait un âge presque canonique, elle arrivait chez moi ainsi vêtue, et la première chose qu'elle faisait, c'est d'enlever le voile et d'enlever la voilette. Parce qu'une fois chez moi, elle ne risquait rien, et puis elle ne pouvait pas travailler au ménage avec ce costume. Donc ça, c'était le costume ordinaire, banal, et qui, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont les plus anciens, au moment de la crise d'Alger en 58, avait valu une espèce de, comment je pourrais dire, d'opération plus qu'ambiguë, où on a demandé aux femmes algériennes d'enlever le haïk et le petit voile, ce qui s'est fait autour du 13 mai 58, en signe de libération, en disant, mais vous voyez, ce sont de bonnes françaises. Bon, c'était une espèce de folie un peu curieuse, bon, qui n'a pas résisté autant. Donc voilà le premier costume. Le deuxième costume auquel on ne pense pas, c'est le costume des Berbères, parce que les Berbères ne sont pas les Arabes. Les Arabes sont la puissance qui est intervenue à partir du 7e siècle et qui a envahi l'Afrique du Nord. Les Berbères étaient déjà là depuis des siècles et qui sont d'une origine semblable à nos Gaulois. Et les femmes berbères ne portent pas de voile ni de voilette. Les femmes berbères portaient surtout le fouta, et le fouta, c'est un grand carré de tissu rayé rouge et jaune, ça fait un peu espagnol, autour de la taille. Donc, elles portaient ce fouta, qui d'ailleurs, la plupart du temps, était fabriqué en fausse soie en rayon à Lyon et qui était exporté pour l'Algérie par tonnes. Et donc, les femmes berbères n'étaient pas du tout voilées et signalaient par là que la civilisation berbère reconnaissait une plus grande égalité, pas totale, mais une plus grande égalité des hommes et des femmes. Par exemple, dans les villages, les femmes siégeaient au conseil du village et elles étaient éventuellement chef de famille à l'égal d'un homme. Donc, il y avait un costume tout à fait différent, alors que pourtant, c'était toutes des musulmanes. Et puis, un troisième costume, alors dans le fin fond du sud de l'Algérie, dans le pays du Mzab, chez les Mozabites. Les Mozabites étaient un groupement qui s'est exilé dans le sud parce qu'ils étaient partisans d'une tendance de l'islam considérée comme hérétique. Et donc, ils se sont réfugiés dans le sud. Ils ont constitué une communauté extrêmement fermée autour de la Pentapole, c'est-à-dire 5 villes reliées les unes aux autres, qui étaient des villes saintes et où on pratiquait un islam beaucoup plus à la fois intellectuel et sévère. Et alors, les femmes là, je vous le donne en mille, étaient recouvertes par une sorte de grand châle en laine blanche, alors qu'il fait 35 degrés à l'ombre, et elles doivent cacher la totalité du corps, elles ne peuvent laisser voir qu'un œil. Et donc, c'est un peu, c'est Belphégor, hein, un peu curieux de croiser ces femmes dont on ne voit qu'un œil, et puis une espèce de grande forme, on ne sait pas dessous si c'est quelqu'un qui est jeune, qui est âgé, on ne voit rien, on voit des pieds et un œil. Et donc là, c'était un costume qui n'avait rien à voir avec, d'une certaine manière, l'islam, mais à des traditions de mise à part des femmes extrêmement rigides dans le sud de l'Algérie. Donc, vous voyez qu'il y avait... Il n'y a pas une unité de costume des femmes qui pourrait se revendiquer comme la seule manière de se vêtir pour des musulmans. On pourrait dire la même chose dans les pays d'origine chrétienne, où on voit bien qu'il y a eu des variations dans la manière dont les femmes étaient habillées. Ce qui a tenu le plus longtemps, au-delà du fait que les robes étaient longues, qu'il fallait cacher les objets du désir, et notamment les chevilles, parce qu'un homme qui reluquait les chevilles avait l'impression qu'il avait vu le nirvana. Bon, et ne parlons pas, alors quand les femmes relevaient la jupe parce qu'il pleuvait ou parce qu'il fallait monter des marches, alors si on voyait le début du mollet et de la jambe, c'était l'évanouissement garanti. Bon, donc on voit bien qu'il y avait des interdits à l'égard du vêtement qui étaient toujours liés la plupart du temps à l'idée du sexe, donc du péché, et qui avaient une plus ou moins réelle liaison avec la religion. Mais pour ce qui est de cacher les cheveux, c'est vrai que jusqu'à la génération de ma grand-mère, les femmes ne sortaient pas en cheveux quand elles étaient bien élevées. C'était les femmes du bas peuple, voire les prostituées, qui sortaient en cheveux. Une femme qui se respecte, comme disait ma grand-mère, portait un chapeau ou, dans les campagnes, un foulard. Elle portait un fichu. Et donc là, il y a eu le maintien jusque dans les années 50, on peut dire, peut-être jusqu'au début des années 60, de ce port du chapeau pour les femmes, qui était le rappel du vieil interdit de Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, « Femmes, soyez couvertes et restez muettes dans les assemblées ». Et on voit bien qu'ici, il y avait le maintien d'un certain nombre d'obligations plus ou moins liées à ce qu'on croyait être les obligations religieuses. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le vêtement, je terminerai par là-dessus, devient un objet de fixation, moins pour une raison religieuse que pour une raison de représentation de la minorité éventuellement à laquelle on appartient. La guerre du foulard pour les jeunes filles dans les écoles ou du voile pour les femmes, c'est la volonté de se représenter dans la société civile comme étant d'une certaine origine, comme manifestant leur particularité. C'est pour cela que la seule chose qui est interdite en France, c'est le voile complet, ce qu'on appelle non pas le hijab, mais le tchador, c'est-à-dire qui n'a qu'une sorte de petite fenêtre grillagée au niveau des yeux et qui empêche qu'on voit le visage. Et donc la loi de 2010 sur l'interdiction de voiler complètement le visage n'est pas une loi liée à la laïcité, elle est une loi liée à l'ordre public. Il n'est pas possible de voir dans la rue des Belphégor, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme, et dont on ne sait pas qu'est-ce que ça cache réellement comme volonté peut-être d'accomplir des gestes interdits par la loi. Donc, bien évidemment, mis à part cette interdiction qui n'est pas liée à la laïcité, je le répète, mais à l'ordre public et qui a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté de se vêtir est maintenue et donc chacun peut croire que lié à sa religion, il est obligé, entre guillemets, de cacher les cheveux ou telle partie de son corps. Voilà donc, voyez toutes les questions complexes qui tournent autour du vêtement, qui est souvent un peu substantialisé, qui est un peu créé comme un problème en soi, alors que, réduit à sa plus simple expression, par l'exception interdite de la nudité, sauf dans des cas très particuliers, veut dire simplement que nos sociétés humaines se distinguent de l'animalité par le fait que nous ajoutons à ce que la nature nous a donné pour nous couvrir, c'est-à-dire les cheveux, des pièces de tissu, de cuir ou de je ne sais quoi, ou de feuillage, qui nous permettent, comme Adam et Ève découvrant leur nudité, de la cacher. Voilà, à bientôt.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.